RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Bonjour à tous. Ce matin, nous ouvrons les pages du magazine Kaizen qui célèbre cette année ses 10 ans. On reviendra à cette occasion dans la seconde partie de l'émission sur quelques initiatives présentées depuis 10 ans dans la revue, portées par des hommes et des femmes qui ont fait le choix de l'action, vous l'entendrez, à l'échelle locale pour répondre aux défis du dérèglement climatique. Ce sera à 10h. Mais dans le dernier numéro de Kaizen, il y a aussi un dossier important consacré au bilan écologique du quinquennat qui s'achève en France. Alors, quelles étaient les promesses du candidat Macron en matière d'écologie? Étions-nous promis un quinquennat écologique, à un président du climat, comme il a pu le dire? Toutes ces promesses ont-elles été tenues? Décryptage dans cette émission avec nos invités. Soyez les bienvenus pour réagir et témoigner. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron ait répondu aux enjeux écologiques? Y a-t-il eu des réussites en la matière, selon vous, ou au contraire plutôt des échecs? Les politiques publiques menées ces 5 dernières années sont-elles suffisantes pour répondre aux enjeux de la crise écologique? Et comment comprenez-vous la condamnation de l'État français pour inaction climatique? Pour participer, vous laissez vos messages dès maintenant à l'adresse direct@rcf.fr. dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis, et on vous attend à l'antenne au 04 72 38 20 23.
Jusqu'à 11h, Je pense donc j'agis sur RCF.
Bonjour Anne Kerléo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes la rédactrice en chef écologie RCF, et avec vous ce matin on fait le bilan du quinquennat Macron.
Oui, alors vous avez certainement entendu, Melchior, cette phrase prononcée hier à Strasbourg par Yannick Jadot à l'adresse d'Emmanuel Macron. Vous resterez le président de l'inaction climatique. Une critique formulée à l'issue du discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen pour inaugurer la présidence française de l'Union européenne. Et pourtant, le quinquennat avait commencé, au moins dans les mots du président de la République, par une ambition climatique forte. Make our planet great again. Rendre à notre planète sa grandeur, avait lancé Emmanuel Macron aux habitants des États-Unis le 1er juin 2017. C'était suite à la décision de Donald Trump de quitter l'accord de Paris. Et puis, dans son programme électoral, il avait proposé, je cite, une rupture profonde avec le modèle productif existant. On trouvait dans le dit programme un certain nombre de promesses qui se voulaient écologiques. Alors, on peut citer pêle-mêle fermer les centrales à charbon, ne pas délivrer de nouveaux permis d'exploitation d'hydrocarbures, interdire l'allocation des passoires énergétiques, accélérer le déploiement des véhicules électriques, mettre en place une taxe carbone, interdire les perturbateurs endocriniens les plus dangereux, introduire au moins 50% de produits biologiques, labels de qualité ou locaux dans la restauration collective, interdire les néonicotinoïdes, le glyphosate et l'élevage des poules en cage, en finir avec le plastique à usage unique, limiter la publicité ou encore diverses mesures en faveur de la biodiversité. Ces promesses et toutes les autres liées à l'environnement ont-elles été tenues? Eh bien, c'est ce qu'on va regarder ensemble pendant cette émission. Et nous nous demanderons aussi si ces mesures forment toutes ensemble une vraie politique écologique.
Et pour faire ce bilan, Anne, nous recevons jusqu'à 10h deux invités.
Oui, d'abord Laurence Maillard-Méhaignerie, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée La République En Marche d'Ille-et-Vilaine, vice-présidente du groupe LREM à l'Assemblée nationale depuis 2020. Et si vous êtes avec nous ce matin, c'est parce que vous êtes aussi la présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale. Je crois que vous vouliez rectifier quelque chose dans ce que j'ai dit.
Alors, je suis plus vice-présidente du groupe puisque par essence, nous cumulons pas les fonctions à l'Assemblée nationale. Donc j'ai la grande chance d'être présidente de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire depuis un peu plus d'un an.
Merci pour cette précision.
Voilà.
Et merci d'être avec nous. Pascal Grébeauval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef de Kaizen Magazine, notre partenaire pour cette émission. Dans votre numéro en cours, celui de janvier-février, vous publiez un dossier décryptage intitulé « Emmanuel Macron, quel bilan écologique ?». Vous dressez un bilan du quinquennat via une analyse des principales mesures. Alors vous les avez regroupées en 8 grandes thématiques. Agriculture, alimentation, climat, habitat, mobilité, consommation, énergie, santé et biodiversité. On reprendra ce canevas pour cette émission.
Merci à tous les deux d'être avec nous en duplex de nos studios à Rennes. Et merci notamment à Xavier Jean qui assure ce duplex ce matin. Alors pour enclencher les échanges dans cette émission, on va commencer par notre chronique. Tout est lié avec ce matin François Mandil.
Bonjour François.
Bonjour Anne, bonjour Melchior.
Alors quand on vous dit bilan écologique, vous tenez à faire une distinction entre deux manières d'aborder le sujet.
Oui, je pense qu'il y a une différence importante à faire entre action écologique et action climatique. Je cite souvent l'exemple de Saint François d'Assise qui n'avait pas besoin de vivre sous la menace des changements climatiques pour être écologiste. L'écologie, c'est placer l'harmonie des relations entre les humains et leur environnement en priorité. Le productivisme, qui est donc le contraire de l'écologie, c'est placer la consommation, l'argent, la richesse matérielle en priorité. On ne peut pas faire les deux à la fois, le « en même temps », là, n'est pas possible. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent, dit Jésus dans saint Matthieu. Eh bien, on ne peut pas servir à la fois la création et l'argent, pourrait-on dire également. Pour autant, vous pouvez tout à fait ne pas être écologiste et vous préoccuper quand même du climat. Dans ce cas, la lutte contre la crise climatique devient un obstacle, une difficulté supplémentaire, une contrainte ou, pour parler de façon positive, un challenge nouveau à relever. Un peu comme les guerres mondiales qui, en accélérant l'innovation technologique, ont été des challenges pour un certain nombre d'industries. Eh bien, lutter contre la crise climatique, cela peut aussi être innover et développer de nouvelles technologies sobres, de nouveaux modes de production d'énergie, etc. On peut donc tout à fait, comme Emmanuel Macron et sa majorité, ne pas être écologiste et avoir quand même une action climatique dont il faut tirer le bilan.
Et vous n'êtes pas très positif quant à ce bilan, justement.
Ben oui, je laisserai vos invités faire ce bilan, mais je rappellerai juste une chose. L'État français a été condamné 2 fois par la justice pour son inaction climatique. Le gouvernement ne met pas les actions nécessaires en œuvre. Et ce ne sont pas de dangereuses activistes écolos décroissants à cheveux longs et en sandales qui le disent, mais donc la justice. Et je pense qu'il est important de rappeler que ça reste toujours les citoyens et les citoyennes qui ont le pouvoir au bout de leur vote. Et donc, plutôt que de faire moi-même ce bilan, je voulais évoquer ma propre petite expérience d'élu local et de militant politique. Faire de la politique, c'est rechercher en permanence du compromis. C'est négocier tous les jours. Quand vous écrivez votre programme, il faut trouver l'équilibre entre la société à laquelle vous aspirez profondément, les objectifs qui vous semblent atteignables sur un mandat et les objectifs qui vous semblent acceptables par les électeurs et les électrices. Car au final, c'est bien le vote qui décide. Et si les Français et les Françaises étaient réellement prêtes et prêts à changer profondément pour faire face à la crise climatique, eh bien les programmes des candidats, des candidates à la présidentielle et aux législatives seraient bien plus engagés. Et ce serait bien l'urgence climatique et l'effondrement de la biodiversité qui seraient au cœur de tous les débats. Alors certes, le bilan d'Emmanuel Macron et de sa majorité sur le plan climatique est mauvais, très mauvais, mais j'ai peur, hélas, que ça n'empêche pas grand monde de dormir.
Merci beaucoup François Mandil. Et la semaine prochaine, c'est Adrien Louandre que nous retrouverons pour cette chronique Tout est lié, que vous pouvez d'ailleurs écouter, je le rappelle, sur rcf.fr.
Alors Laurence Maillard-Méhagnerie, Pascal Gréboval, je vous propose de, pour commencer de réagir à cette chronique et peut-être d'abord à la fin, avant d'entrer dans le bilan, quand il dit « les Français ne sont pas réellement prêts à changer profondément ». Qu'en pensez-vous en fait, Laurence Maillard-Méhagnerie?
Écoutez, moi, je pense qu'ils le sont, mais je pense qu'ils le sont si on leur montre le chemin et si on leur propose des solutions. Et comme toujours, sur ces sujets difficiles, on n'est pas tous à égalité face à ces enjeux de changement climatique, de dérèglement climatique. Et évidemment, notre attention, elle doit être en particulier focalisée sur les personnes qui ont le moins de moyens, le moins de possibilités, les plus vulnérables pour faire face à ces changements. Et bien évidemment, ce sont les gens les plus modestes qui vivent dans des logements mal isolés, qui ont moins les moyens, voire pas les moyens de changer leur véhicule. Les plus isolés, probablement aussi, face aux moyens de transport collectif. Voilà, donc l'attention, et encore une fois, je crois que c'est très important d'envisager ces enjeux de dérèglement climatique, de préservation de la biodiversité, de la planète et du vivant dans un ensemble, un système qui doit inclure le social et bien entendu aussi l'économique. C'est ce qu'on appelle le développement durable. C'est penser global et c'est agir local. Et c'est la feuille de route aussi des Nations Unies, c'est la feuille de route des grands, des parties prenantes, des COP successivement. Et évidemment, c'est un enjeu mondial qui concerne la planète. Mais agir local, c'est bien entendu un objectif suprême qu'on doit placer au-dessus de tous les autres, en prenant soin des plus vulnérables.
Pascal Gribouval, sur la même question, les Français, prêts, pas prêts, d'après vos lecteurs par exemple? Alors eux, ils sont peut-être particulièrement sensibilisés déjà.
Alors je vais pas prendre effectivement les lecteurs et je partage ce que dit Laurence Maillard-Méhignerie. Je pense que les Français sont prêts dans les différentes études qui ont été faites ces dernières années. L'environnement s'impose comme un enjeu majeur dans les préoccupations des Français. Il y a d'ailleurs eu un sondage en septembre, c'était dans le tiercé des préoccupations des Français, l'environnement. Et d'ailleurs je remercie RCF et vous Anne et Melker d'organiser cet échange parce que on se rend compte que l'environnement est devant la crise identitaire, est devant l'immigration, est devant le chômage. Et aujourd'hui, dans une seconde étude, les Français sont prêts à rogner sur la croissance pour privilégier l'environnement. Donc les Français sont prêts aujourd'hui en termes de sensibilisation. En revanche, effectivement, c'est quel récit on leur donne à entendre, on leur donne à voir pour qu'ils se mettent en action. Ça, c'est un autre problème, effectivement. Donc je pense que la prise de conscience est là. C'est maintenant comment on les emmène. Et quand je dis « on », c'est à dessein, c'est-à-dire c'est pas seulement les politiques, c'est aussi bien les médias, les entreprises et les institutions locales. Donc je pense qu'ils sont prêts, on a juste besoin de leur montrer une vision dans ce qu'on appelle en entreprise, un chemin, une voie, si on reprenait la terminologie de votre chroniqueur. Donc je pense qu'ils sont prêts, il faut juste leur montrer, comme dit Laurence Maillard-Méhignerie, des solutions qui soient acceptables pour tout le monde.
Alors vous avez employé, Pascal Gribouval, le mot environnement, pas celui d'écologie. Or, vous titrez dans Kaizen le bilan écologique, et en fait, c'est vrai que les mesures que vous auscultez concernent plutôt l'environnement. Laurence Maillard-Méhignerie, vous venez d'employer le terme de développement durable, qui est celui d'ailleurs qui désigne la commission que vous présidez à l'Assemblée. Ça mérite peut-être, enfin, comment vous réagissez à ce que disait François Mandil là-dessus, en disant, il y a d'une part l'environnement, mais l'écologie, ça se limite pas à ça, c'est quelque chose de bien plus systémique que cela. Et lui disait, c'est le contraire du productivisme, ce que d'ailleurs laissait entendre Emmanuel Macron au début de son mandat dans la phrase que j'ai citée tout à l'heure.
Alors, je rejoins sur, si vous voulez, j'ai toujours pensé que l'écologie, d'une certaine façon, était un humanisme. C'est une façon aussi de prendre soin des gens, de prendre soin de la nature et de notre environnement. À partir de là, il faut aussi construire des politiques publiques qui aient du sens, des solutions, vous l'avez rappelé bien sûr, dans un objectif extrêmement clair, qui sont les engagements que nous avons pris aux accords de Paris et successivement vis-à-vis de nos partenaires dans le monde. Et ça nous oblige à réduire nos émissions de carbone. Donc, c'est très clair dans toutes les politiques et en tout cas toutes les législatives que nous avons été amené à examiner et à voter à l'Assemblée nationale depuis un peu plus de 4 ans maintenant, dans ce mandat, dans ce quinquennat. Ça a été, voilà, de procéder secteur par secteur à appliquer la feuille de route qui est la stratégie bas carbone de la France. Elle vise, cette stratégie bas carbone, à faire entrer la France vers la neutralité carbone en 2050. À partir de quoi on arrivera à respecter les engagements que nous avons pris. C'est nécessaire et probablement pas suffisant. Donc cette trajectoire, elle est claire, elle est définie, elle fait consensus, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus, et elle nous amène à procéder à la décarbonation d'un certain nombre de nos activités. Décarbonation, ça veut dire réduire les émissions de carbone dans notre production d'énergie, dans les logements, dans les transports du quotidien, dans l'industrie et dans la gestion de nos déchets. Et à partir de là, on a construit et on a proposé des lois, que ce soit la loi Egalim, la loi sur les mobilités, qui est une grande loi des mobilités, et dont il faut aussi savoir tirer un bilan, la loi sur l'économie circulaire et l'anti-gaspillage, et ça c'est très concret, hein. Les Français, en tout cas, ont été très sensibles à cette loi parce qu'elle est concrète, elle emmène des changements systémiques dans la gestion de nos déchets, on pourra en parler un petit peu plus longtemps. La loi, évidemment, climat, hein, qui traduit climat résilience, qui traduit les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et là-dessus, je voudrais aussi en dire un mot parce qu'on a
alors
beaucoup...
Alors juste, oui. Vous dites traduit, merci, certains ouais. À votre place diraient trahi, pardon. Cet immense décalage entre la traduction sans filtre des propositions de la Convention citoyenne et la traduction effective a quand même été beaucoup soulignée et beaucoup décriée. Et c'est un immense regret des militants climat, en fait, de ce quinquennat.
Alors ça a été vraiment, j'allais dire, comme un peu cette idée qui a traversé depuis le début. on a prédit l'échec de cette loi. On n'a pas prédit l'échec de la Convention citoyenne pour le climat, puisque simplement c'était une totale innovation. Ça n'a jamais été fait auparavant en France et j'ai trouvé l'exercice extrêmement intéressant. Moi, je crois beaucoup en la démocratie participative. J'ai moi-même un comité citoyen dans la circonscription qui nourrit mes réflexions et des échanges tout à fait passionnants. Mais je m'inscris en faux quand on dit que c'était très peu de mesures transcrites dans la loi climat. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'il y a 149 mesures, très bien. Et moi, je tiens le compte tout simplement parce qu'il est tenu depuis le début sur le site écologie.gouv du ministère de l'économie, de la transition écologique. Sur 149 mesures, il y en a 71 qui sont en cours de mise en œuvre et il y en a 75 qui sont déjà mises en œuvre. Tout simplement parce que les mesures de la Convention citoyenne pour le climat ne sont pas toutes d'ordre législatif. Certaines d'entre elles relevaient aussi de mesures déjà prises, en particulier dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. D'autres avaient été prises en loi de finances, d'autres avaient été prises aussi dans la loi d'orientation pour les mobilités et pas appliquées. Et c'est là qu'on va revenir à l'inaction climatique supposée de l'État. C'est aussi sa capacité à mettre en œuvre les mesures que nous avons votées. Et c'est là qu'il y a un décalage, bien entendu. Donc moi, je dis qu'il y a eu dans la loi climat résilience, dans le plan de relance, qui est oublié dans les analyses aussi des un peu de nos détracteurs et de nos opposants politiques, il faut quand même le souligner. Le plan de relance, c'est 30 milliards d'euros et c'est des financements concrets pour les projets alimentaires territoriaux, pour la décarbonation des entreprises, pour l'isolation d'un certain nombre de bâtiments publics. Il y a eu c'est les lois de finances successives, hein, faut pas les oublier, elles sont complexes. Mais dans la trame des lois de finances, il y a à chaque fois des engagements très précis. La loi anti-gaspillage qui a apporté un certain nombre de mesures très concrètes. Il y a aussi des mesures, 24 d'entre elles, qui relevaient du niveau européen et international. Et là, la France, elle peut pas prendre des lois ou adopter des mesures qui relèvent du niveau européen. Ça, c'est la hiérarchie des normes et puis d'autres modalités. Donc, au total, on nous a dit un tiers des mesures et on a oublié le reste. C'est faux. Il y a un comptage extrêmement précis qui est transparent sur le site que je vous invite à voir sur écologie.gouv, suivi Convention citoyenne pour le climat.
Alors Pascal Gribeauval, sur le bilan de la Convention citoyenne sur le climat.
Alors c'est un exercice difficile, puisque pour préparer cette émission, évidemment je suis allé voir sur le site que vient de citer Laurence Maillard-Méniori, mais je suis allé aussi sur le site du Monde qui tient à jour ce compte, et je suis allé sur le site de la Convention citoyenne qui tient aussi à jour ce compte. Et donc j'ai envie de dire, c'est en fonction de la police et des syndicats. C'est-à-dire que effectivement pour le gouvernement c'est parfait, pour le Monde c'est un peu moins parfait, et pour la Convention citoyenne c'est inacceptable. Et en fait, ce qui est difficile, c'est que quand on regarde le site du gouvernement, il y a des flous. Je vais prendre juste un exemple sur l'avion. La Commission citoyenne souhaitait supprimer les lignes aériennes pour lesquelles il existe une alternative en moins de 4 heures. Ce qui concernait donc 23 liaisons intérieures sur les 108 opérées aujourd'hui en France. Dans la loi climat, le gouvernement a réduit le périmètre à 2h30, ce qui nous amène à 4 lignes. Quelle ligne aérienne, et encore, quand il y a des correspondances, ils ont droit d'être mis en place. Donc on arrive à une. Donc sur le site du gouvernement, on n'arrive pas à savoir si c'est pris en compte, pas pris en compte ou en partie. Et donc ça rend l'exercice difficile, y compris pour un journaliste aguerré. Alors j'imagine pour un citoyen, c'est très difficile. Et je pourrais prendre plein d'exemples comme ça. Ce que j'en retiens, c'est que Emmanuel Macron avait dit à Cyril Dion, qui est donc quand même co-créateur du magazine Kazine, que ça serait sans filtre. Et on s'aperçoit qu'il y a eu quand même beaucoup de filtres. Et c'est ça qui me pose question. C'est quand un politique de la teneur du président de la République prend une parole qui n'est pas l'engagement respecté, ça me pose une question en fait, surtout sur l'aspect écologique. Donc est-ce qu'il a respecté la Convention citoyenne ou pas? C'est extrêmement difficile, en tout cas c'est en deçà de ce que proposait la Convention citoyenne.
Ce matin, on tire le bilan écologique du quinquennat Macron. Vous pouvez réagir en temps réel, je le rappelle, au 04 72 38 20 23. Dites-nous si vous pensez qu'Emmanuel Macron ait répondu aux enjeux écologiques. 04 72 38 20 23.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand et Anne Kerléau.
Avec nos deux invités qui nous accompagnent dans cette première partie, Laurence Maillard-Méniori et Pascal Gribeauval, pour décrypter ce quinquennat Macron.
Pascal Gribeauval, dans Kaizen, vous proposez donc un bilan, je le disais, en 8 thématiques. Alors, c'est pas un exercice très facile. Comment vous y êtes pris pour déterminer ces thématiques, dans le sens où, en fait, tout est lié, et notamment, par exemple, il y a une thématique climat, mais elle est très connectée à toutes les autres.
C'est une bonne question, Anne. C'était très compliqué d'organiser ce bilan, puisqu'effectivement, et pour revenir sur la question précédente, l'écologie, c'est une vision holistique, écosystémique. Donc, c'était très difficile d'apporter un bilan. En même temps, c'était la première fois qu'on faisait cet exercice, parce que dans le Kaizen, on essaye de pas être trop manichéen. Or, là, on avait besoin de faire un bilan, donc rentrer dans des approches plus, on va dire, partielles ou manichéennes. Donc, comment on conjugue une vision holistique et des points techniques, c'est un exercice difficile d'un point de vue journalistique. Et le deuxième exercice qui était difficile, c'est que sur les sites internet, on aurait pu détailler toutes les mesures. Là, on a dû faire des choix. Donc, on a fait des choix en fonction de ce qui nous semblait important, des mesures qui nous semblaient importantes dans ce qui avait été annoncé dans le programme et ce qui avait été mis en place, parce qu'il faut quand même souligner, et ça, je tiens à le dire, que le gouvernement a fait quand même beaucoup plus que tous les gouvernements précédent. En revanche, c'est pas à la hauteur des enjeux. Donc, c'est aussi cette complexité de pas tomber dans cet autre manichéisme. C'est montrer qu'il y a des avancées, mais qu'elles sont pas suffisantes. Donc, c'était un vrai casse-tête. Donc, on a choisi 8 thématiques au bout de plusieurs réunions avec la journaliste Léa Dang, que je tiens à citer, qui a organisé ce bilan. Donc, on a essayé de prendre les thématiques les plus importantes, notamment l'énergie, évidemment, la consommation, la mobilité, l'alimentation, qui correspondent aux parts d'émissions les plus importantes en France, parce que je vais quand même rappeler que ce qui est le plus important en France, c'est le transport, c'est l'industrie, l'agriculture. Donc, on devait à minima recouvrir toutes ces thématiques. Donc, on a fait cet exercice un peu d'équilibriste pour organiser ce bilan.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un biais à prendre les mesures, en fait? Parce que prendre les mesures, ça veut dire, enfin, regarder les mesures une par une, même si vous les regardez pas toutes, mais c'est plutôt des mesures soit d'ordre technique, économique, enfin, et du coup, il n'y a pas de, on n'analyse pas du tout, par exemple, la dimension de sobriété. Est-ce que dans certains domaines, on fait moins? Ça, c'est, sauf erreur de ma part, hein, c'est pas, je pense, analysé dans votre bilan. Est-ce que ça, c'est pas un biais quand même?
Vous avez raison, Anne, c'est un biais. Dans Kaizen, depuis 10 ans, on prône la sobriété chez Rapier Rabhi. Et ce qu'aujourd'hui, Bruno Latour appelle la générosité. Donc, mais là, on voulait rentrer vraiment dans des indicateurs effectivement un peu techniques pour que les Français nous accusent pas d'être pro ou anti-Macron, c'est-à-dire prendre point par point les mesures qui ont été prises. Puisqu'aujourd'hui, on le voit avec la crise sanitaire, on pilote la France avec des indicateurs, ce qui a toujours existait. D'ailleurs, avec le PIB, on en reviendra sur ce point. Donc, on avait besoin d'indicateurs pour dire, là, il y a un avancé, là, il n'y a pas d'avancé, là, il y a un recul. Donc, vous avez raison, on n'a pas une vision holistique, écosystémique, mais c'était nécessaire pour faire ce bilan sans être accusé d'être à charge ou à décharge.
Alors, il est plutôt à charge quand même, enfin, en tout cas, si on regarde les chiffres, puisque à chaque fois, vous donnez un nombre de mesures et le nombre de mesures positives, enfin, pour chaque thématique, le nombre de mesures positives, négatives et neutres. Et là encore, sauf erreur, je crois qu'aucun des bilans n'est positif. C'est plutôt des mesures négatives.
Disons que le candidat Macron ne revient pas en seconde année, puisqu'effectivement, il y a des avancées, comme je disais, mais il n'a pas la moyenne sur l'ensemble des 8 propositions, enfin des 8 thématiques, pardon. Donc effectivement, il y a des avancées. J'ai envie de dire que l'avancée la plus notable, c'est peut-être du côté de la biodiversité, étonnamment. Et alors que sur d'autres points, comme la mobilité ou l'énergie, on est très en retard. Donc effectivement, ça peut être à charge, mais on a fait le travail avec Léa Dang, la journaliste, de prendre mesure par mesure pour voir ce qui est vraiment une avancée, ce qui est neutre ou ce qui est défavorable à l'écologie.
Alors entrons dans les thématiques. La première, c'est agriculture-alimentation. Laurence Meyer-Méhanneri, de votre point de vue, quel est le plus grand acquis ou la chose la plus positive du quinquennat en la matière?
Je pense que ce qui est largement alors acquis, il n'y a jamais rien d'acquis évidemment, et vous avez raison de souligner que tout doit être en tout cas perfectible et renforcé. Moi, j'ai envie de dire, il y a un processus qui s'est engagé de façon irréversible, c'est-à-dire la prise de conscience que l'alimentation devait, la façon de produire notre alimentation devait sortir pas à pas, progressivement, parce que je crois que les accélérateurs sont très compliqués à mettre en place, mais progressivement des intrants chimiques et de ce qui crée des dégâts pour la santé et la biodiversité. Alors moi j'ai envie de vous dire de façon globale que bravo pour ce bilan, parce qu'il est, je sais, pas facile à réaliser. Vous avez vos entrées un peu vos prismes aussi. Et je crois que là-dessus, on peut discuter. Je pense qu'il manque des choses dans votre bilan. Et c'est bien normal parce qu'on ne peut pas faire l'inventaire de 15, presque 5 ans de législature. Et en particulier sur l'alimentation, parce que c'est vraiment un sujet que j'ai beaucoup travaillé dans la loi Egalim, pour introduire une mesure qui nous semblait, avec cette feuille de route, de l'alimentation durable, accessible à tous. Encore une fois, c'est le volet social qui m'intéresse. Faire de l'alimentation durable pour les personnes les plus aisées, franchement, ça, tout le monde sait faire. En revanche, donner cette alimentation durable à portée de tout le monde, et on a pensé que la restauration collective, en particulier les cantines, était un bon moyen, était une façon intéressante de mettre cette alimentation à portée de tous. Avec le constat suivant, c'est que, je vous prends l'exemple de la viande dans les cantines, on s'est rendu compte que dans nos études et études d'impact, plus de 60% de la viande qui était servie sur les, dans les assiettes de nos enfants était importée. Alors que nous produisons en France de la viande de bonne qualité, que nous avions des labels, et ça nous a conduit à dire, dans cette loi, en 2022, d'ici 2022, il nous faut atteindre l'objectif de 50% d'alimentation durable, dont du bio, avec des produits sous label public, et j'insiste, label public, donc label rouge, du bio en particulier, des AOP et des AOC, pour valoriser aussi ces démarches de qualité. Donc, on a mis cette priorité en place avec la cantine à 1 euro, qui marche bien aussi, pour permettre aux familles qui n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants à la cantine et progressivement arriver à transformer la façon dont on mange à la cantine. Bien manger à la cantine, c'est moins de gaspillage. Tout le monde vous le dit. Donc ça, c'est un élément aussi très important et systémique, pour le coup, parce qu'il entraîne des conséquences importantes. Et puis aussi, les circuits courts que nous avons soutenus très largement, soutenus aussi dans le plan de relance, avec aussi les projets alimentaires territoriaux qui ont repris de l'impulsion, qui avait été initié sous le gouvernement de François Hollande, un petit peu laissé en jachère, et on a relancé en apportant des financements importants et de nouveaux projets alimentaires territoriaux ont vu le jour, notamment en Ille-et-Vilaine. Moi, je trouve que c'est une satisfaction, mais il faut aller évidemment plus loin et certainement accélérer encore.
Alors, du côté du réaction de Pascal Grébeauval.
Oui, je pense que la mesure que vient de décrypter Laurence Maillard-Meignery est intéressante, puisqu'effectivement, il y a cet objectif de 50% en bio dans les cantines. Pour beaucoup échanger avec Gilles Davot, qui fait de la formation auprès des collèges et des cantines, notamment dans le Grand Ouest, il souligne quand même un point qui est sous-jacent à cet objectif, c'est qu'aujourd'hui, les cuisiniers, et c'est pas de leur faute, ne sont pas formés pour préparer des plats avec des alimentations bio. Et c'est-à-dire que ça ouvre la porte à l'industrie agroalimentaire qui va fournir des plats tout préparés, certes bio, certes local, mais avec un bilan carbone qui sera pas positif. Donc en fait, c'est comment on se positionne? Est-ce qu'on regarde le verre à moitié plein? Est-ce qu'on regarde l'ensemble du verre? Et ça, c'est une vraie question. Donc effectivement, du côté du gouvernement, on va dire c'est une avancée, mais si on regarde d'un point de vue écosystémique, je ne suis pas sûr que l'avancée soit suffisante. Et quand Laurence Maillard-Meignery parle d'avancée pas à pas, je me souviens, 6 mois avant qu'il démissionne, nous avons interviewé Nicolas Hulot dans son ministère, et dans l'interview, il avait cette phrase choc qui disait « Aujourd'hui, la politique des petits pas, ça ne suffit pas ». Et c'était assez violent pour nous, parce que Kaizen, ça veut dire avancer pas à pas. Et donc, ça nous a vraiment heurté, en disant « Aujourd'hui, on n'a plus besoin des petits pas, faut vraiment allonger le pas ». Et comment on allonge le pas en emmenant tout le monde, ça c'est une vraie difficulté. Donc vous voyez, on peut regarder le verre à moitié plein comme le regarde le gouvernement, mais aussi on peut dire bah c'est peut-être pas assez qu'il soit à moitié plein en fait. Voilà.
Et c'est ce que nous disent certains auditeurs, Melchior.
Absolument. C'est Jean-Jacques qui est avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour, je voulais aborder le problème du glyphosate. Ça fait des années qu'on nous dit que le glyphosate en fait est un produit très dangereux, qui est utilisé dans l'agriculture. Énormément de pays l'ont interdit et on s'aperçoit qu'en France, il y a encore des difficultés pour admettre que ce produit est dangereux et on a l'impression que voilà, il n'y a pas suffisamment de choses qui sont faites pour l'interdire. Voilà sur la question sur laquelle je me posais ce matin.
Merci beaucoup Jean-Jacques d'être venu à l'antenne pour aborder cette question. D'ailleurs, même sur Twitter, on nous interpelle sur cette question réveil. Un tweetos qui nous dit « N'oubliez pas de parler des promesses trahies sur le glyphosate et des néonicotinoïdes, si je ne me trompe pas sur la prononciation. »
Les néonicotinoïdes, c'est pas facile à dire si c'est vrai. Alors, réponse de Laurence Maillard-Méhanuri, quand même, promesses trahies sur le glyphosate.
Alors, tout d'abord, non, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont interdit le glyphosate. C'est bien le problème, c'est qu'on aimerait bien l'interdire au niveau européen. Mais le problème du glyphosate, c'est l'arbre qui cache la forêt ou qui ne cache pas la forêt. En vérité, c'est l'ensemble des pesticides et des produits chimiques. Alors, de ce point de vue-là, vous avez raison, et le président de la République l'a dit, il s'était engagé, il s'est rendu compte que la trajectoire d'interdiction, elle était compliquée dans la mesure où... D'abord, il fallait une interdiction européenne et c'est le moment où il faut mobiliser les acteurs européens, la présidence française de l'Union européenne, parce que le renouvellement de l'autorisation de mise sur marché du glyphosate, c'est 2022 au niveau européen. Il faut agir maintenant pour que l'Europe adopte, enfin interdise le renouvellement, cette autorisation de vente du glyphosate. Mais j'allais dire le plus important, et je pense qu'il y a eu des progrès de ce point de vue-là, ce sont les produits cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. C'est les plus dangereux. Et cela, depuis quelques années, ils ont progressivement été éliminés. Les autorisations mises sur le marché n'ont pas été renouvelées lorsqu'il y avait à chaque fois des alternatives. L'enjeu, c'est quoi? C'est de sortir progressivement notre agriculture européenne de la dépendance aux produits chimiques et aux produits les plus dangereux. Et donc, le raisonnement du président de la République, dont je ne suis pas porte-parole, mais que je comprends, c'est de dire, si on interdit ce produit en France, il faut l'interdire chez nos voisins. Parce que les agriculteurs, ils nous disent quoi? Si nous n'avons pas la possibilité d'utiliser ces produits qui sont très normés, très contingentés, faut quand même le dire, c'est plus du tout comme il y a 20 ou 30 ans. Ça veut dire que les pays voisins vont les utiliser. Et ça fera une concurrence déloyale en Espagne, en Belgique, en Italie, en Allemagne. Et donc, il faut que cette mesure, elle soit prise au niveau européen. Et c'est ce qu'a dit le président de la République.
Mais est-ce qu'à un moment, ça, enfin, comme le disait Pascal Ribeauval, on n'est plus à l'heure des petits pas, est-ce qu'à un moment, ça, se défausser toujours sur ce genre d'argument, c'est pas se dispenser de réfléchir autrement et peut-être à la manière d'accompagner les agriculteurs français pour leur permettre? Parce que si tout le monde dit, on n'y va pas parce que les autres n'y vont pas, à un moment, personne n'avance.
Non, je comprends votre argument.
Pascal Ribeauval, peut-être d'abord.
Non, oui, juste, en fait, je comprends l'argument, mais ce qui me pose question dans cet argument, c'est que parfois ça nous arrange quand l'Europe nous aide, par exemple sur le transport routier, où on accepte que les chauffeurs polonais dorment sur des aires de repos en France le week-end, on accepte que les transports lituaniens viennent faire de la concurrence déloyale aux chauffeurs français, mais quand c'est les agriculteurs, là c'est à notre défaveur. Donc en fait, l'Europe parfois a bon dos et parfois est le petit canard noir. Donc soit elle nous aide, soit elle nous aide pas. Donc, je pense que vous avez des enfants, je crois, Madame Maignery, Maillard-Maignery. Et donc, il y aura forcément un phénomène de biomimétisme. C'est-à-dire que si nous, on s'engage pour une politique verte, les autres vont nous suivre irrémédiablement. Et donc, il faut faire confiance à l'intelligence des Européens pour dire, on prend une décision et on verra ce qui se passe.
Laurence Maillard-Maignery?
Oui. Alors, c'est précisément aussi ce que je souhaite, bien entendu. Mais le président de la République a pris des engagements aussi forts sur ces enjeux-là. Voilà, espérons emmener tout le monde en Europe. Et vous savez, c'est une démocratie. Donc, il y a aussi des États qui sont un petit peu en retrait de ces enjeux. Moi, j'ai envie de vous dire aussi qu'on n'a jamais eu autant de surfaces agricoles utiles en bio. Moi, j'y crois beaucoup. On en a trois fois plus depuis 2010. On a 12% d'exploitation agricole engagée en bio. Bon, ça progresse, on voudrait que ça progresse encore plus vite, mais vous voyez aussi la tension sur les marchés du lait en bio, des œufs en bio. Donc il faut faire attention aussi aux filières. C'est un marché ouvert, c'est un marché européen. Voilà, il ne faut pas se déconnecter des réalités économiques et pour autant accompagner le bio. Alors, je voyais bien dans votre petit bilan, vous soulignez qu'il n'y avait plus d'aide au maintien en bio, ça c'est dans la nouvelle PAC, mais vous avez oublié de dire qu'on multipliait quand même par deux ou trois les aides à la conversion en bio. Et ça, c'est important. Donc, vous voyez, vous dites des choses, mais vous en omettez d'autres. Donc, je trouve qu'il est quand même très partial, votre bilan, à certains égards. Et je me permets de souligner les petits oublis qui me semblent importants de dire. En tout cas, les aides à la conversion bio vont augmenter dans la nouvelle PAC. Et ça, c'est important de le dire. effectivement, les aides au maintien qui ont été abandonnées déjà depuis 3 ans ne sont pas retenues dans la nouvelle PAC.
Allez, on va marquer une petite pause. On a encore plein de choses à dire sur le bilan écologique d'Emmanuel Macron. Vous continuez de nous appeler, tout comme Jean-Jacques qui est venu à l'antenne il y a quelques instants, au 04 72 38 20 23, également par mail à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo.
On écoute Adrien Gallo sur RCF. Ex-bébé brune, c'est dans la sélection musique d'RCF.
20e étage d'une tour HLM, du jardinage sur un balcon. De Bangkok à Paris, c'est partout un peu la même chanson. Rêve de plage dans un camion à peine sous l'arbre magique qui sent bon. Rêve d'Amazonie, c'est toujours un peu la même chanson. Et de Bali à Dakar, de Shanghai à Seattle, on doit être des milliards à se sentir un peu seul. Faudrait dire pour stop l'attraction. Je veux descendre ralenti, y'en a marre de toujours tourner en rond. 30 jours par mois, 7 journées par semaine, la vie ne fait pas attention. Qu'importe qui l'écrit, c'est toujours un peu la même chanson. Et de Bali à Dakar, de Shanghai à Seattle, être des milliards à se sentir un peu seul. Et on s'en va nulle part dans des trains de banlieue. On est sûrement des milliards.
Adrien Gallo sur RCF, c'était Capital Triste.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo.
Avec nos deux invités qui nous accompagnent dans cette première partie, Laurence Maillard-Meignery, députée La République En Marche d'Ille-et-Vilaine et puis présidente de la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire de l'Assemblée Nationale. Et Pascal Grébeauval nous accompagne également, rédacteur en chef de Kaizen Magazine. On décrypte le quinquennat Macron, en tout cas d'un point de vue écologique, Anne, ce matin.
Oui, on a pris pour ça la grille thématique proposée par Kaizen. Alors, le temps passe beaucoup trop vite parce qu'on a exploré qu'une des thématiques. Pascal Grébeauval, avant la suivante, vous souhaitiez déjà réagir.
Oui, une nouvelle fois, c'est est-ce qu'on regarde la mesure en fonction des syndicats ou de la police sur l'agriculture, puisque effectivement, nous n'avons pas signalé qu'il y avait une aide supplémentaire pour la conversion, mais sur le maintien, c'est quand même une problématique de pas avoir maintenu les aides sur le maintien, puisqu'en fait, quand on décrypte cette mesure, la Commission européenne qui ambitionnait d'aboutir à 25% des parcelles en bio en 2030, aujourd'hui, on sait qu'on va pas l'atteindre justement avec cette mesure qui a pas été maintenue. Donc.
Pourquoi? Parce que les agriculteurs, du coup, ce qu'ils ont fait, leur conversion ne tiennent pas parce qu'ils sont pas suffisamment aidés dans la durée?
En tout cas, quand on les interview, quand on regarde ce que dit la FNAB, effectivement, il y a beaucoup d'agriculteurs qui disent, on va arrêter puisqu'on n'aura pas les moyens de maintenir cette activité aujourd'hui. Donc là il faudra faire le bilan d'ici un an ou deux, quand les aides ne seront supprimées, en fait. Mais en tout cas, de manière déclarative, ils disent on va arrêter d'être en bio, ça nous coûte beaucoup trop cher par rapport aux aides qu'on n'a plus, en fait.
Allez, je vous propose...
Je pense que c'est une question de marché, hein, avant tout.
Je vous propose qu'on passe à la thématique suivante.
Je ne vous rejoins pas là-dessus du tout. Non, non.
Bon, voilà, on voit
c'est pas exact.
Le clivage.
D'autant plus qu'on a gardé un crédit, on a voté la prolongation du crédit en bio. Et les enjeux de marché, si vous lisez la presse, si vous la lisez, vous êtes attentif et vous parlez aux agriculteurs, c'est plutôt des enjeux de marché. Il y a surproduction de lait en bio et des prix qui baissent. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Voilà. Le maintien, c'est pas un sujet, c'est la conversion. Il faut amener à la conversion et l'aide. elle a nécessairement besoin d'être maintenue sur la conversion.
Il y a débat, le maintien, c'est pas un sujet, je suis pas sûre que tout le monde souscrive à cette affirmation.
En tout cas, la conversion, c'est un enjeu majeur.
Je vous propose qu'on passe à la deuxième thématique, qui est celle du climat. Donc, on l'a dit, la France a été condamnée pour inaction climatique à deux reprises. Qu'est-ce qui, pour l'un et l'autre, est saillant dans le bilan? Cette fois-ci, on commence peut-être par vous, Pascal Grébeauval.
J'ai envie de dire c'est la vision globale où on sait que pour l'instant, et ça il y a unanimité là-dessus, on n'est pas parti pour respecter les accords de Paris, c'est-à-dire qu'on va dépasser allègrement les 2 degrés qu'imposaient les accords de Paris, et ça c'est pas Kaizen qui le dit, c'est pas Pascal Grébeauval qui le dit, c'est à peu près tout le monde qui le dit, tous les scientifiques, et notamment Jean-Marc Jancovici qui fait partie de la haute autorité du climat. Donc c'est cette vision globale en fait qui nous pose question. C'est aujourd'hui on est face à un défi majeur, rester sous les 2 degrés. Et ces 2 degrés, il faut bien comprendre que ça questionne l'habitabilité sur Terre, en fait. Donc, c'est un enjeu majeur. Donc, il n'y a pas que le climat, votre chroniqueur avait raison, il y a la biodiversité, mais comment on fait pour vivre avec 2,7, 3, 4 degrés en France et dans le monde? Ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire que derrière, il y a des crises alimentaires, il y a des crises sociales, il y a des crises de réfugiés climatiques. Et j'ai envie de dire, là, j'ai pas envie de détailler, c'est une vision écosystémique pour le coup. C'est comment on fait pour vivre avec plus de 2 degrés. Alors nous sommes en Bretagne, on aura peut-être une sorte de chance, mais comment les gens du Sud vivent avec plus 3, plus 4 degrés? Et ça, pour l'instant, on n'est pas dans les clous, comme dirait Jean-Marc Jancovici.
Laurence Maillard-Méanuri.
On a face à nous le plus grand défi qu'on ait à faire face depuis très très longtemps. Et bien entendu, c'est pas un problème franco-français. Bien entendu qu'il faut un leadership politique, il faut de la volonté politique, il faut emmener les autres pays à amorcer cette transition. Et en ce moment, nous vivons déjà le dérèglement climatique et certaines régions du monde, le réchauffement climatique, la montée des eaux, voire la disparition, en tout cas pour les États insulaires, une menace extrêmement précise. Et puis les populations autochtones, il faut jamais les oublier. Donc c'est tous les ans ces COP avec plus ou moins de réussite, quand même oblige tous ces États à travailler et à échanger entre eux. Et les engagements des États, encore faut-il qu'ils soient respectés, hein, on est bien d'accord. Aujourd'hui, nous emmène à la COP 26 à Glasgow un constat qu'on pourrait évidemment, sous toute réserve, limiter ce réchauffement qui serait de toute façon dramatique d'ici 2050 et 2100. On est dans un horizon qui paraît lointain, mais qui est très proche dans l'histoire de l'humanité. À partir de là, il faut non seulement montrer la capacité des États les plus avancés, les plus développés, qui ont contribué activement à ce réchauffement climatique, à aider les États, en tout cas en développement ou plus pauvres, à amorcer ou amortir le changement, ou en tout cas la résilience, ou s'adapter au changement. Ça, c'est les enjeux de la COP. La solidarité nationale qui soit s'organiser. Et puis, il faut décarboner toutes les économies, sortir des énergies fossiles. C'est la super priorité qu'on doit absolument tenir, c'est sortir des énergies fossiles, sortir de la dépendance aux énergies fossiles qui émettent du CO2 et le méthane aussi, hein, qui est lié à l'exploitation de ces hydrocarbures, une partie dans l'élevage aussi et dans la gestion des déchets. Voilà, ça c'est l'enjeu absolument majeur et tous les ans, ces États se retrouvent, échangent avec plus ou moins de réussite. Faut pas négliger non plus les accords bilatéraux. La France va aider l'Afrique du Sud à sortir de la dépendance à la production d'électricité par le charbon. Elle est entièrement dépendante, ce pays est entièrement dépendant de la production d'électricité par le charbon. Voilà, il faut amorcer ces changements, il faut que les pays s'entraident, il faut qu'une belle solidarité, une grande solidarité se mette en place. Une fois qu'on a dit ça, il faut rentrer dans le concret.
Voilà, et si on est dans le concret, puisque vous abordez la question des énergies, on peut entrer dans cette thématique-là. Pascal Grébeauval, là-dessus, bilan pour vous, 2 mesures positives sur les 8 recensées par Kaizen. Sur cette question de la sortie des énergies fossiles, quel bilan de votre point de vue?
On peut déjà saluer l'arrêt de la centrale nucléaire de Fessenheim, donc ça, on peut
le
souligner.
Alors là, on n'est pas sur les énergies fossiles, on est sur l'énergie plus globalement.
Mais vous parlez
d'abord sur les énergies fossiles, parce que si on entre dans la question du nucléaire, elle va nous vampiriser, comme c'est souvent.
Pardon. Sur les énergies fossiles, en fait, j'ai envie de poser une question à Madame la députée. Avez-vous fait le calcul de votre empreinte carbone individuelle?
Bien sûr, je l'ai fait. Ouais.
Vous êtes à combien?
Je suis assez mauvaise dans les transports, les déplacements.
Oui, mais au total, vous êtes à combien?
Je sais plus, mais c'est pas extraordinaire à cause des transports. Voilà, je continue à me déplacer en voiture dans la circonscription. Je prends beaucoup le train, les transports en commun. Globalement, je l'ai plus en tête, mais je vous le communiquerai. Hein, faut être honnête, mais je l'ai fait il y a 2 ans. L'alimentation, c'est pas trop mal. Les transports, peut mieux faire. Je prends pas l'avion, je prends le train principalement, mais je me déplace en voiture. J'ai pas une voiture électrique, j'ai une voiture hybride. Et sur le logement, pas trop mal aussi. Voilà.
Parce que pour expliquer aux auditeurs, Anne et Melchior, en fait, l'empreinte carbone, c'est extrêmement déterminant comme indicateur. Et d'ailleurs, dans la stratégie nationale du bas carbone, c'est considéré comme l'élément le plus déterminant. Et aujourd'hui, il y a le cabinet d'études Carbone 4 qui a mis un outil qui s'appelle MyCO2 qui permet de le calculer. Donc je l'ai fait hier pour être au taquet ce matin.
Alors,
je suis à 5,5 tonnes. Aujourd'hui, un Français moyen est à 9 tonnes 9, on va dire 10 tonnes.
Il faudrait être à 2, c'est ça?
Et c'est ça, voilà. Il faudrait être à 2. Donc, en fait, quand je vous écoute, Madame la députée, j'entends bien la COP, etc. Mais j'ai envie de dire, ce n'est que du bavardage. Puisque moi, aujourd'hui, je suis à 5 tonnes...
Vous pouvez pas dire ça.
Je suis à 5 tonnes 5, et parce que Anne pose la question du concret, je n'arrive pas à descendre en dessous des 2 tonnes.
C'est ça, parce que Pascal Grébeauval, on pourrait vous dire, mais à ce moment-là, si vous parlez d'empreinte carbone, finalement, vous renvoyez la question aux individus, et là, on sort du politique, mais en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'organisation politique ne nous permet pas de réduire notre empreinte carbone.
C'est ce que j'allais dire, Anne, effectivement, c'est que pourquoi je n'arrive pas à atteindre les 2 tonnes, c'est que je pars avec déjà un déficit de 2 tonnes à cause des institutions, à cause de l'État, à cause de ce qui est présent aujourd'hui en France. C'est-à-dire que tous les Français partent déjà avec un bilan de 2 tonnes. Donc, il ne me reste plus qu'à peu près 300 kilos pour vivre, si je veux atteindre les 2 tonnes. Je parle en un équivalent carbone. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Et comment aujourd'hui les États se positionnent pour diminuer cette empreinte carbone de 2 tonnes? Et c'est là aujourd'hui où je ne vois pas de réponse politique. Parce qu'effectivement, on avait un peu la politique du colibri chez Kaizen. Aujourd'hui, je fais ma révolution culturelle. C'est plus la responsabilité des citoyens. C'est vraiment un triptyque citoyen, entreprise, collectivité. Quand je dis collectivité, c'est la région, c'est l'État, c'est les mairies. C'est comment on travaille tous ensemble, puisque vous l'avez dit, c'est un vrai défi. Aujourd'hui, on est tous dans une baignoire à nager tranquillement, mais demain, on va devoir faire Nice, Bastia, à la nage. Comment on le fait collectivement? Comment on fait pour que tout le monde arrive ensemble à destination? Et ça, c'est un vrai défi. Je vous promets de refaire l'exercice, madame. Arriver à 2 tonnes, c'est un vrai défi. J'ai cherché, je n'y arrive pas. Pourtant, je suis végétarien, je me déplace 100% en vélo, je ne prends plus l'avion, je suis extrêmement sobre dans mes achats, je n'arrive pas à 2 tonnes. Et donc, si moi je dis j'arrive pas à 2 tonnes, comment font les gens aujourd'hui qui sont à 15 ou 20 tonnes? Comment ils font? Ça, c'est un vrai défi.
Alors, le défi, c'est de les accompagner. C'est déjà dans les déplacements du quotidien, je vous ai trouvé extrêmement sévère sur les mobilités, parce que moi, j'ai des choses à ajouter de ce qui ont été faites. Après, il faut en tirer le bilan et les résultats. Mais c'est donner le plan vélo, c'est le déploiement des pistes cyclables sécurisées, c'est l'accompagnement des ménages à faire l'acquisition d'un véhicule propre, c'est progressivement investir aussi pour décarboner les transports. C'est dans le logement des plans très ambitieux pour accompagner les ménages avec MaPrimeRénov', dont vous avez celui quand même un tout petit positif. Merci. C'est aussi ce qu'on a adopté dans la loi climat, qui va permettre aux ménages modestes, avec un système de prêts, d'apporter en fait des financements de le reste à charge sur la rénovation globale des logements. C'est 20-30 000 euros au minimum pour rénover globalement, thermiquement, des pavillons qui datent des années 70-80. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas assumer financièrement cette partie-là. Et vous avez compris que c'est un processus long, et je m'inscris en faux. Il faut que les États continuent à discuter. L'an dernier, la COP n'a pas pu se tenir, il ne s'est rien passé. La COP s'est tenue à Glasgow, avec quelques succès, quelques échecs, mais en attendant, des accords sont passés. Il faut continuer à discuter, entraîner dans le sillon des États les plus moteurs sur ces changements climatiques, les États-Unis sont revenus dans la COP. C'était dramatique. Le gouvernement Donald Trump a rompu tous les accords, s'est arrêté.
Oui, mais là, Laurence Maillard-Mannery, on n'est pas sur le bilan du quinquennat, là.
Non, mais on est sur ces enjeux qui sont extrêmement compliqués. C'est-à-dire, penser global, c'est travailler avec tous les États, organiser la solidarité internationale et que les engagements pris par les États se traduisent au niveau local. Et moi, je veux dire aussi, dans cette période où on a tous en responsabilité les messages que nous donnons à nos concitoyens, une période difficile, on peut garder les obsidies de l'empreinte carbone pendant le confinement, vous avez vu ce que ça donne. Est-ce qu'on peut, c'est ça la promesse qu'on peut donner à nos concitoyens? Je ne crois pas. Et je crois que je m'insurge et je tiens à le dire parce que j'ai une nature toujours très positive. Et je crois que c'est important de l'avoir en politique. Ceux qui sont toujours dans le cataclysmique, le mauvais présage, les cassandres, il y en a plein sur le marché et l'offre politique. Je pense qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Et moi, je m'insurge contre le nihilisme climatique. Et c'est exactement le climatologue qui s'exprimait dans Don't Look Up. Et il disait, en fait, il a été vilipendé beaucoup pour ses travaux, par des climato-sceptiques. Et lui disait qu'en fait, il lutte contre le nihilisme climatique qui nie tout élément positif, les petits pas, les moyens pas et les grands pas. Parce que ça conduit d'autres, des détracteurs, à l'inaction climatique. Voilà, vous regardez, c'est une interview dans Le Monde qui a été publiée il y a quelques jours, la semaine dernière. Et je trouve qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit.
Est-ce que ça, c'est pas un peu une manière de se dédouaner quand même, Laurence Maillard-Mannery ?
Pas du tout. Non, pas du tout. Moi, je reprends, je cite ses propos. Et c'est quelqu'un de très engagé. Valérie Masson-Delmotte dit à peu près ces choses-là. Il faut garder de l'espoir, il faut garder de la positivité. Il faut emmener les gens dans cette dynamique. Elle n'est pas facile, elle va être dure. Mais renoncer à toute avancée ou en disant qu'elle n'est pas suffisante, c'est franchement désespérant. Et moi, je trouve qu'il faut rester courageux, audacieux, engagé sur ces sujets et positif. Dès qu'il y a une démarche et dès qu'il y a une avancée, il faut la saluer. Peut-être dire qu'elle n'est pas suffisante, mais au moins la saluer, parce que c'est aussi ce que pensent nos concitoyens.
La réponse de Pascal Rebouven.
Oui, il y a deux choses. Sur la COP, je vais pas remonter à Chirac avec la terre brûle et on regarde ailleurs, mais malgré tout, en 2021, les émissions mondiales de carbone ont augmenté de 5%. Donc on peut pas dire que c'est une formidable réussite, alors qu'elle devrait diminuer de 5% par an, chaque année. Donc, je ne sais pas si c'est adressé à mon endroit, à l'endroit de Kaizen, mais sur l'écologie, qu'on va qualifier de punitive. Nous, depuis 10 ans, on propose des solutions. Donc, je suis d'accord avec vous. On doit proposer des solutions pour expliquer qu'il y a un avenir possible et qu'il y a un avenir durable. Et j'ai envie de dire joyeux, comme je disais il y a 15 jours sur cette antenne. Donc, moi, je suis vraiment partisan d'une écologie positive. Donc, malgré tout, on doit aussi rester lucide et partager à minima des constats. C'est-à-dire que comment on fait collectivement, et là c'est un vrai enjeu de société, pour réduire notre empreinte carbone individuelle, nationale et mondiale. Donc c'est pas en se disant que tout va bien qu'on va faire avancer les choses, et je suis d'accord, c'est pas en disant que tout va mal qu'on va faire avancer les choses. Malgré tout, j'entends de la part de certains politiques un discours que je trouve un peu greenwashing en disant on a fait des efforts. Oui, vous avez fait des efforts et je suis d'accord et j'aimerais pas être à votre place, madame la députée, puisque le contexte est extrêmement difficile d'un point de vue climatique, sans parler de sanitaire. En revanche, c'est aussi notre devoir en tant que journaliste de dire c'est insuffisant.
Non, mais c'est absolument votre devoir, bien sûr, et c'est votre rôle, bien entendu. Je le conteste pas. D'ailleurs, j'aime pas le terme de... J'aime pas l'écologie punitive, ça veut rien dire du tout. Moi, je dénonce simplement le nihilisme climatique, le nihilisme en général, qui renonce et qui dénie la moindre avancée positive. Et je crois que ça, il faut lutter contre ça, parce que ça donne du grain à moudre à tous ces détracteurs qui sont contre les éoliennes parce que c'est moche, qui ne parlent pas du tout du changement climatique. Et comptez le nombre de candidats à la présidentielle qui n'en parle absolument pas. Déclaré aujourd'hui, déclaré.
Mais
qui n'en
bien.
Parle pas du tout. Donc je crois qu'il faut mettre cet enjeu au cœur des préoccupations, les porter avec courage, parce que c'est des sujets difficiles. Quand vous dites aux gens, écoutez, il va falloir que vous limitiez l'usage de la voiture et que progressivement vous utilisiez des modes de transport décarbonés, Il vous regarde, il vous dit, mais moi, je fais comment? Tous les jours, il faut que j'aille mon travail. Il faut que je dépose mes enfants. Il faut que j'aille faire mes courses. Il faut que, voilà. Et c'est le concret des gens qu'il faut accompagner avec des solutions, progressivement. Il faut y aller. On peut faire des grands pas parce que peut-être que l'innovation va nous aider. L'hydrogène, pourquoi pas, peut nous aider à décarboner beaucoup de choses et rapidement. C'est pas encore ça tout de suite. Les petits pas sont comptent, les pas moyens et les grands pas comptent aussi. Donc voilà. Et moi, je prends aussi, par exemple, certaines mesures que vous avez d'ailleurs dénoncées en disant, entre autres, je reviens sur l'agriculture parce que je
Alors,
crois qu'il faut
être
honnête aussi.
Alors, on a plus le temps, Laurence Maillard-Magnery, il nous reste 30 secondes.
Dans les constats.
Donc vraiment, 30 secondes chacun pour conclure, s'il vous plaît. Alors, Laurence Maillard-Magnery, puisque vous y êtes, vous pouvez encore prendre 30 secondes pour me parler d'agriculture, si vous voulez.
Alors, bon, les mobilités, oui, ou l'agriculture, quand vous dites, on a renoncé à une loi sur qui indiquerait... Je ne sais plus ce que vous disiez, tout compte fait, peu importe. Vous oubliez le Nutri-Score? Le Nutri-Score, c'est un truc qui marche hyper bien, que tous les citoyens s'approprient, qui indique effectivement la qualité nutritionnelle. Pourquoi adopter une loi et de l'étiquetage alors qu'il est déjà quelque chose? Attention,
parce
que le bilan soit honnête et complet.
Parce que ça, je vous dire. Vraiment très
merci
rapidement.
De l'avoir fait.
Moi, j'ai envie de dire juste de reprendre l'appel du pape François qui dit aux leaders mondiaux, les décideurs politiques sont appelés d'urgence à apporter des réponses efficaces à la crise écologique actuelle et à offrir ainsi un espoir concret aux générations futures.
Car on est d'accord.
Merci beaucoup à tous les deux. Ça allait beaucoup, beaucoup trop vite. On renvoie évidemment à la lecture du bilan de Kaizen, du bilan du quinquennat, et puis aussi au site que vous nous citiez en début d'émission, Laurence Maillard-Magnery, pour aller voir comment la majorité fait son propre bilan et le gouvernement fait son propre bilan.
Merci à tous les deux pour cette émission. Merci à Xavier.
Merci.
Pascal, vous restez, Pascal Grébeauval.
Oui, je reste.
On va se plonger 10 ans en arrière depuis la création de Kaizen Magazine. À tout de suite sur RCF.